Bonjour et bienvenue dans notre série de podcasts dédiée à la solidarité en milieu rural. En 3 épisodes, nous partons à la rencontre de celles et ceux qui agissent près de chez vous pour briser les préjugés et lever les freins du quotidien. Pour ce 2e épisode, handicap et mobilité réduite, l'accès pour tous, on s'intéresse à l'inclusion et à l'autonomie sur notre territoire. Pour comprendre comment se construisent l'accessibilité et le changement des regards, je suis allée à la rencontre de 3 structures de notre région. L'association de gestion des instituts du Haut-Beaujolais et la Nouvelle Aide à Tizy-les-Bourgs, ainsi que l'association La Roche au Sauvage. Ensemble, découvrons les solutions concrètes pour que chacun puisse trouver sa place et puisse être accompagné dans les tâches du quotidien. Bonne écoute! Il est presque 15h30, j'attends patiemment à la radio de RVR à Amplepuis. J'ai rendez-vous avec Michel Verdier, président de l'association de gestion des instituts du Haut-Beaujolais. Dès son arrivée, nous commençons notre échange. Pour comprendre comment est née cette aventure humaine, je vous propose de revenir aux origines de la structure et les enjeux de la GIB. Pour commencer, pouvez-vous nous raconter en quelques mots l'histoire de l'association ?
L'histoire de l'association commence dans les années 1970. À cette époque-là, sur le secteur, il n'y a pratiquement rien. Et donc, plusieurs familles se réunissent, notamment à l'initiative de la famille Fayol et Rambicure. Et ils vont organiser une réunion. Ils vont être débordés par le succès de cette réunion. Alors, grand étonnement, ils voient arriver beaucoup de parents, tout en sachant que à l'époque, les gens qui avaient des enfants en situation de handicap ici les mettaient souvent loin du secteur. Et à l'époque, les familles n'allaient voir leurs enfants que tous les 6 mois. Donc du coup, ils vont créer cette dynamique et le secteur, la municipalité, va être très favorable à ce mouvement. Et petit à petit, va se créer à l'époque un IME, vous imaginez, en 9 mois. 9 mois entre le moment où on dit on va en avoir un, on va en faire un. Et petit à petit, on va être suivi par les différentes municipalités jusqu'à arriver à avoir la palette complète des établissements dont on a besoin, c'est-à-dire d'un IME pour les plus jeunes jusqu'à des foyers de vie et des foyers d'accueil médicalisés, plus un ESAT.
Donc aujourd'hui, concrètement, à qui s'adresse l'association ?
Alors, si on veut venir à l'association, n'importe qui peut venir à l'association. Notre association est affiliée à la DAPI 69. Donc, notre association en tant que telle ne dirige pas d'établissement, ne les gère pas. Néanmoins, le président de la GIB fait partie du conseil d'administration et à ce titre-là, on peut influer sur la politique de la DAPI 69. Les enfants ou les adultes qui sont affectés sur les établissements sont affectés par la maison du handicap, puisqu'ils relèvent du champ du handicap.
Est-ce qu'il y a des défis particuliers auxquels vous devez faire face ?
Le premier défi actuellement est effectivement, en tout cas pour moi, sans doute un manque de financement. Depuis le Covid, les financeurs sont eux-mêmes soumis à des contraintes extraordinaires. Et du coup, globalement, il faut faire autant avec moins, voire mieux. Alors, ça n'empêche pas la DAPI 69 et la GIB d'imaginer de nouvelles solutions, notamment un secteur qui est assez déficient, c'est l'accueil des personnes vieillissantes. L'accueil des personnes vieillissantes, c'est compliqué. Comment est-ce qu'on fait avec des adultes handicapés qui arrivent à un moment où ils ont besoin d'un accompagnement plus sévère ? Les établissements ne sont pas forcément équipés pour faire ça et les EHPAD pas mieux non plus. Donc, il y a des synergies qui sont en train de se créer parce qu'on se rend bien compte qu'il y a un vrai besoin.
L'association déploie son énergie pour accompagner des centaines de personnes en situation de handicap, des enfants aux adultes, en veillant à offrir à chacun une place et un accompagnement sur mesure au sein de notre territoire. Aujourd'hui, combien de personnes sont accompagnées par l'association au total ?
La proportion sur le secteur, je dirais qu'on a à peu près une centaine d'enfants sur l'IME. Perce-Neige, et on doit avoir autour de 300-350 personnes dans le secteur adulte. Dans le secteur adulte, on a un foyer d'hébergement pour les gens, c'est le foyer Jeudard, pour les gens qui travaillent à l'ESAT. On a l'ESAT, où on a 120 personnes à peu près accueillies. On a un foyer de vie pour des gens qui ne sont plus en capacité de travailler. Et on a un FAM au foyer Fontalet à Montsol. À la Platière, il y a une partie qui est aussi foyer d'accueil médicalisé.
Agir efficacement sur notre territoire, c'est aussi savoir s'entraider entre les structures. La GIB l'a bien compris en s'inscrivant dans une démarche de coopération. Elle apporte ainsi son aide à la DAPI 69. Pour cette grande structure, pouvoir s'appuyer sur une association de proximité ancrée dans le Haut-Beaujolais est un soutien indispensable. La GIB cherche à soutenir ainsi les actions présentes sur le territoire.
Donc vous avez évoqué le fait que vous soutenez et financez des actions. Est-ce que vous pouvez expliquer lesquelles, notamment ?
Alors, dans les actions, la première des actions, c'est l'accueil des nouvelles familles. C'est-à-dire que lorsque des familles arrivent, on les reçoit en tant que parents, pas en tant que professionnels, pour leur faire part de notre expérience et leur apporter éventuellement des réponses à leurs questions. C'est aussi la possibilité pour les familles de voir que les chemins peuvent être différents. Certains vont penser d'une manière, d'autres autrement. L'autre dans tous les établissements relevant du conseil du médico-social, il y a les conseils de la vie sociale auxquels nous participons de manière régulière. C'est une instance qui se réunit à peu près 4 fois par an dans chaque établissement. Et là, pareil, on est là pour donner notre avis sur la politique. On fait aussi un lien entre les familles et l'établissement. Parfois, il peut y avoir des dissensions entre les familles et les établissements. Il peut y avoir des interrogations, surtout sur les changements, notamment au moment des changements, lorsque, par exemple, une personne accueillie doit quitter l'ESAT parce qu'il n'est plus en capacité de travail. Il va y avoir une réorganisation de sa vie au niveau du travail et au niveau de l'hébergement. Des moments, certains parents appréhendent ce passage et on a besoin d'être là. On participe à tous les temps forts du territoire organisés par les établissements. Là, il y a eu deux soirées boîte de nuit. Il y a eu une soirée les années 80, une soirée dansante. Et il y a eu un grand pique-nique organisé au Sauvage où on a participé. Il y a des concours de boules. C'est souvent beaucoup d'actions festives, mais on organise aussi des rencontres entre parents avec des professionnels, avec un thème. On a eu le patrimoine, on a eu la découverte du diagnostic prénatal, comment est-ce qu'on gère le handicap et fratrie, enfin, on fait des choses comme ça. Et puis surtout, on apporte un soutien financier aux établissements, si on peut donner de l'argent. Le Ministat, par exemple, qui est à la Platière, c'est l'AGIB qui l'a financé.
Ainsi, l'Association de gestion des instituts du Haut-Beaujolais, autrement dit l'AGIB, cherche à sensibiliser le grand public.
Au-delà de l'accompagnement direct, est-ce que vous cherchez aussi à sensibiliser le grand public ?
Ce qui nous intéresserait, ce serait de faire venir d'autres personnes, et notamment les plus jeunes. Notamment les plus jeunes, qui vont apporter à la fois leur dynamisme, entre guillemets, leur inexpérience. Je dis leur inexpérience parce que c'est grâce à des gens comme ça qui vont nous dire « on pourrait faire ça ». Nous, on va dire, on est un peu plus âgés, on va dire « peut-être pas très prudent ». Eh bien si, ils vont nous dire et on va le faire.
Pour conclure, quel est le message principal que vous souhaitez laisser aux auditeurs d'RVR ?
Alors, ceux qui sont isolés, il faut qu'ils viennent nous voir. On leur donnera des renseignements pour sortir de cet isolement, parce que des fois, et même souvent, c'est quand même compliqué, les arcanes administratives. Il peut y avoir aussi le sentiment que mettre le doigt dans l'engrenage du champ du handicap va emmener sur des voies entre guillemets de garage, alors qu'il y a une vraie vie dans les établissements, une vie affective, une vie professionnelle, une vie amoureuse, une vie amicale. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Donc, il faut qu'ils sortent de cet isolement. Ils peuvent venir nous voir.
Quitter Amplepuy et l'Association de gestion des instituts du Haut-Beaujolais ne signifie pas pour autant la fin de notre voyage au cœur des associations sur notre territoire. Pour découvrir une autre facette de l'accompagnement dans notre région, j'ai pris la route vendredi en fin d'après-midi, direction les Hauteurs des Sauvages. Chaque structure possède son histoire et ses objectifs. Une organisation ne naît pas de rien, elle est le fruit d'un parcours, de choix passés et d'une culture qui lui sont propres. C'est cette histoire que nous explique le directeur général de l'association.
Alors, l'association La Roche, elle est née en 1972 sur le site des Sauvages, le site du pèlerinage aujourd'hui, de la Vierge. C'était un lieu dédié que possédait le diocèse et dédié à la formation des prêtres. Et crise des vocations aidant, vers les années 70, le diocèse a cherché à vendre. Et l'économe du site, frère Roger, avait pris l'habitude de faire travailler des personnes handicapées. Et il s'est dit, tiens, pourquoi pas créer une association pour utiliser ces locaux et faire travailler des personnes handicapées. Avec quelques élus, quelques notables, quelques connaissances, l'aventure a commencé comme ça. La Roche est une association qui est entièrement dédiée à l'accompagnement des personnes qui vivent avec un handicap psychique, avec la maladie mentale. Nous ne nous adressons qu'à des adultes, nous n'avons pas de pôle enfance. Et aujourd'hui, La Roche, c'est 3 pôles, un pôle soins, un pôle habitat et vie sociale, et un pôle vie professionnelle, où nous faisons travailler près de 300 personnes dans nos 5 ESAT. Donc notre cœur de métier, c'est la santé mentale. C'est de permettre à des personnes qui vivent avec un handicap psychique de comprendre leur maladie, de l'apprivoiser, de vivre avec et de pouvoir mener la vie qu'on souhaite à tout un chacun. L'accès à l'éducation, l'accès à la formation, l'accès au travail, l'accès au logement, l'accès à la vie associative, l'accès à la vie familiale, à la vie affective et sentimentale. Ce sont nos ambitions, que ces personnes qui, des fois, pourraient être envahies par la maladie, avec des conséquences d'isolement, d'exclusion, puissent avoir une place dans la société, vivre comme tout un chacun. Et nous, tous nos services sont dédiés à ça.
Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu plus les 3 pôles ? Qu'est-ce qu'on retrouve dans chacun ?
Alors, dans le pôle soins, qui est chez nous le pôle accompagnement spécialisé, il y a essentiellement la maison d'accueil spécialisée de Clavaisol, un gros établissement qui est, qu'on finit d'installer, qui va accueillir à terme 60 personnes qui viennent toutes d'hôpital psychiatrique. Certains y ont passé 25 ans. Et nous, on les aide à passer d'un statut de patient enfermé, voire de dossier médical enfermé, à un statut de citoyen, d'habitant de Clavaisole. On aura près de 90 salariés sur ce site-là. Le pôle soins, il comprend aussi un pôle externe de compétences, c'est-à-dire une petite équipe qui a une compétence sur un syndrome particulier, syndrome Prader-Willi. Et donc, on vient aider les collègues qui sont confrontés à ce syndrome. Ça fait partie des maladies rares, il y en a très très peu. Et ce sont des troubles du comportement, et notamment du comportement alimentaire, sur une base génétique qui sont très complexes. Donc, on intervient en appui. Notre pôle Habitat et Vie Sociale, qui est le pôle le plus développé, c'est 14 dispositifs sur le Rhône et sur la Loire, du côté de Roann. Nous avons toute la batterie, toute la typologie d'hébergement possible. Le collectif, le semi-collectif, l'individuel renforcé, avec ou sans soins. L'important, c'est que chacun trouve une modalité d'habitat qui lui convienne et qu'il choisisse. Trop souvent, dans le handicap, on vous impose des foyers. Nous, on a la possibilité de faire choisir à la personne qui s'adresse à nous différents types d'habitat. On essaye, si ça ne marche pas, on propose autre chose. Et on est capable d'accompagner les personnes quand ça va mieux comme quand ça va moins bien. Notre pôle vie professionnelle, pôle inclusion professionnelle, c'est donc 5 ESAT, 2 blanchisseries industrielles, un entrepôt de logistique et de conditionnement de produits pharmaceutiques et produits de beauté, une métallerie et une laiterie. Alors, on en a 3 qui sont sur la Corse, sur le territoire de la communauté d'Ouest Rhodanien. C'est la métallerie de Tarare, c'est la blanchisserie d'Amplepuy et c'est la laiterie des Sauvages. On propose des métiers très très différents. Là aussi, l'idée, c'est de proposer des parcours professionnels avec de la formation, avec des immersions dans le milieu ordinaire aussi, pour ceux qui le veulent, pour ceux qui le peuvent et ceux qui le souhaitent. On ne force personne à aller faire un essai à l'extérieur, mais on est tenu, obligé, dès que quelqu'un en exprime le besoin, de mettre en place un dispositif. Donc on a des chargés d'insertion, on a des coordinateurs de parcours professionnels, on est présent dans le dispositif de l'emploi accompagné, où là on fait beaucoup de liens, du coaching avec les entreprises, pour préparer les entreprises à l'accueil d'une personne qui a un handicap psychique, c'est pas toujours évident, et quand il n'y a pas de préparation d'accompagnement, il y a souvent des échecs. Donc ça c'est le gros de notre travail sur notre pôle professionnel, 300 personnes, 292, qui tous les jours ont un travail, gagnent leur vie grâce aux activités qu'on leur propose.
L'association La Roche accompagne les personnes en situation de handicap avec pour objectif de développer leur autonomie et leur confiance en soi. Dès lors, une question se pose, quels sont les résultats concrets de cette démarche ?
On a un retour effectivement jusqu'à présent qui était assez empirique, c'est qu'on voyait quand même les trajectoires individuelles, on voyait les gens qui progressaient, certains régressent aussi, ça fait partie malheureusement de la vie, de l'évolution de la maladie, mais on est capable, nous, d'accompagner des fois la perte d'autonomie, l'augmentation du trouble du comportement. Et aujourd'hui, on est en train de former nos équipes à la mesure d'impact social, justement. On commence à nous le demander. Alors, nos financeurs, nous sommes financés par l'État, l'ARS et par les départements. Nos financeurs, aujourd'hui, ne le demandent pas. Mais je pense que ça sera une évolution. Nous sommes tenus de faire des évaluations, des questionnaires de satisfaction. On n'est pas tout à fait encore dans la précision de la mesure d'impact, mais comme quand nous déposons des dossiers de financement auprès de fondations privées, certaines fondations font de la mesure d'impact une obligation. On y est arrivé comme ça, par une demande d'une fondation, et aujourd'hui on est en train de former nos équipes. Notre directeur du pôle Habitat a hier soir présenté à nos administrateurs le travail qu'ils ont fait sur le pôle de mesure d'impact et les premiers indicateurs qui sont en train de sortir.
À l'heure actuelle, dans la structure La Roche, combien de personnes travaillent au total et combien de personnes vous accompagnez ?
Aujourd'hui, on est à 300 salariés sur l'association et les personnes accompagnées, c'est un peu plus de 800. Nous avons une obligation de qualification. Ça, la réglementation médico-sociale est assez drastique, hein, assez sévère là-dessus. Nous sommes tenus tous les 15 ans de faire des évaluations. Tout un tas de critères sont évalués et c'est ce qui conditionne le maintien de notre agrément et de nos financements. Nous fonctionnons parce que nous sommes autorisés par l'État ou par le département. Et donc la qualification des personnels est une obligation légale aujourd'hui. On n'aurait pas le droit d'embaucher quelqu'un sans diplôme. Alors la situation de l'emploi fait que quand on crée 90 postes à Clavaisole, on n'a pas 90 personnes qualifiées sur site, donc nous accompagnons les personnes, nous les formons nous-mêmes. Les métiers, nous avons tous les métiers de l'accompagnement, les éducateurs, les moniteurs éducateurs, les accompagnateurs de la vie quotidienne. Nous avons bien sûr les métiers de services généraux, nous avons les métiers de l'entretien, nous avons les métiers administratifs, nous avons les métiers du soin, infirmiers, aides-soignants, médecins, nous avons les cadres et nous avons les métiers techniques, les moniteurs d'ateliers qui encadrent les travailleurs des ESAT. Et là, en général, ce sont des gens de l'art, donc des soudeurs, des métalliers, des fromagers, qui connaissent le métier et qui sont en capacité d'accompagner les personnes, puisque pour pouvoir produire, il faut bien souvent commencer par la formation des travailleurs handicapés. Quand nous avons ouvert notre laiterie en 2023, on a formé 30 personnes au métier du lait, fabriquer du fromage, fabriquer du yaourt, respecter les normes d'hygiène. Ça nous a pris, on a eu une phase de mise en route qui a duré presque un an. La formation de 30 personnes a été un gros point pour que demain, ils réalisent une prestation de qualité, parce que nous sommes soumis à toutes les règles du marché, toutes les règles d'hygiène et de qualité. On travaille de lait cru et non seulement il n'y a pas de passe-droit, mais en plus, l'administration aurait tendance à nous en demander un petit peu plus en considérant qu'on a un petit risque avec les personnes qu'on emploie. Donc, on forme les personnes et elles sont, une fois bien accompagnées, en capacité de produire un travail de très, très grande qualité.
Comment gérez-vous l'organisation des plannings pour assurer un suivi auprès des personnes atteintes de handicap pour qu'elles fournissent un travail? Comment ça s'organise?
Les plannings, c'est l'affaire des chefs de service. Dans notre organigramme, alors moi je suis le directeur général d'association, j'ai des directeurs et chaque directeur s'appuie sur des responsables de site, des cadres intermédiaires ou des chefs de service. Donc ce sont les cadres intermédiaires, les chefs de service et responsables de site qui élaborent les plannings, là aussi en tenant compte de tous les paramètres légaux, bien entendu, et qui essayent d'optimiser les moyens qui sont mis à notre disposition pour fournir un service le plus professionnel possible et le plus de proximité, en sachant que La Roche, depuis quasiment toujours, travaille sur l'accompagnement individuel. Donc on construit des projets individualisés, personnalisés, donc ça prend un peu plus de temps, ça mobilise un petit peu plus de personnel, mais il ne serait pas question pour nous de raisonner en collectif, de raisonner en groupe, c'est bien l'individu qui fait l'objet de notre attention, et c'est pour l'individu, avec l'individu, que nous construisons des parcours personnalisés.
Aujourd'hui, si une famille ou quelqu'un atteint un handicap veut venir à votre rencontre, comment ça se passe ?
Alors, ils sont déjà dans un réseau d'établissements médico-sociaux, de services d'établissement ou des réseaux sanitaires. Les médecins, les infirmiers de secteur peuvent être des prescripteurs. Donc, par rapport aux besoins, ils disent, tiens, la Roche a des services qui pourraient vous correspondre. On a des personnes qui nous sollicitent directement par notre site associatif aussi, le site internet. Le bouche à oreille marche pas mal. Sur Tarare, on est très connus. On est là depuis 50 ans. On loue 70, 60, 80 appartements dans Tarare. Donc, les personnes qui ont un souci, qui relèvent de la santé mentale, savent que la Roche est sur le territoire. Après, sur nos ESAT, à Vénissieux, à Brignais, notre résidence d'Iseron ou nos établissements de la Loire, là, c'est après, en général, c'est les services sociaux, au sens là, maison départementale des personnes handicapées, puisque pour venir chez nous, il faut une orientation officielle qui est délivrée par la maison départementale des personnes handicapées. Donc, eux, ils ont les listes en fonction des typologies de handicap, typologies de besoins. Ils disent, ben là, voilà, sur votre secteur, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Oui, il y a une première étude des besoins qui est faite. En général, il y a la maison départementale des personnes handicapées. Aujourd'hui, on a aussi la communauté 360 qui reçoit des demandes et qui oriente vers les bonnes personnes. Et puis, pour les cas très, très difficiles, on a les DAC, je crois que c'est un dispositif d'appui aux cas complexes, je crois, qui sont aussi des instances départementales et régionales qui permettent de solliciter un peu en urgence quand il y a des situations critiques.
Est-ce qu'il y a des défis auxquels vous êtes encore confrontés après 50 ans, plus de 50 ans d'existence ?
Le premier défi, c'est la baisse des financements publics. Aujourd'hui, les budgets accordés, dans certains cas, ne suffisent pas à couvrir la réalité des charges. On a des établissements qui ne sont pas assez dotés. L'administration a élaboré un certain nombre de règles, des convergences tarifaires, des moyennes départementales. Et dès qu'on dépasse, c'est compliqué. Or, nous, sur notre maison d'accueil de Clavaisole, on a un public très, très spécifique que personne d'autre n'a dans le département. Donc, on pourrait être un peu mieux doté que les autres. Dans les faits, on est un peu mieux doté que les autres, mais ça ne suffit pas encore tout à fait. Donc, des défis de financement. Aujourd'hui, l'argent public se raréfie. Il est au compte-gouttes. Il est de plus en plus sur des objectifs, sur des durées limitées. Avant, on avait l'habitude de financement ad vitam. Aujourd'hui, c'est des périodes de 5 ans, des périodes de 7 ans, des périodes de 15 ans. Donc, on remet en question, on répond à la commande médico-sociale, et si on y répond bien, on nous garantit le financement. Donc, un premier défi, c'est le financement. Donc, ça nous amène aussi aller voir un petit peu explorer d'autres champs comme celui de l'économie sociale et solidaire, de ne pas rester coincé, confiné dans le médico-social. Notre défi spécifique, La Roche, c'est d'arriver à l'équilibre économique de nos ESAT, parce qu'aujourd'hui nous ne le sommes pas. Nous ne le sommes pas parce que nous avons fait de très gros investissements pour améliorer les conditions de travail et proposer les jolis métiers que je vous ai exposés tout à l'heure. Donc d'arriver à l'équilibre, nous sommes à l'équilibre sur les structures sociales financées, nous ne sommes pas à l'équilibre sur la partie commerciale qui est en autogestion. Donc ça pour nous c'est un gros défi. Et puis, il y aura un autre défi à venir, c'est celui de la responsabilité territoriale, qui est en train de se mettre en place d'abord dans le secteur enfance, et qui arrivera, on nous parle d'un horizon 2030 pour le secteur adulte, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous avons nos établissements, on propose une gamme de services à des populations qui viennent, je vous demande ceci, bon je l'ai, je vous accompagne, je ne l'ai pas, vous allez voir ailleurs. Demain on aura une responsabilité sur un territoire de répondre à toutes les demandes de tous les publics. Donc ça veut dire, nous, de créer des synergies avec tous les acteurs, parce que si c'est des personnes déficientes sensorielles qui viennent nous voir, aujourd'hui, on ne sait pas faire. Donc il faudra qu'on aille trouver un collègue, un copain, qui lui a une spécialité dans le handicap sensoriel, avec qui on fasse une convention, on crée une petite structure administrative, un groupement de coopération médico-sociale. Si on peut faire par simple convention, c'est beaucoup, beaucoup moins lourd, et de façon à, encore une fois, à répondre à toutes les demandes. Ça s'inscrit dans un objectif national qui est le zéro sans solution. Quelques années, il y avait eu un rapport fait par un monsieur qui s'appelle Denis Piveteau, et qui avait dit, il faut aller vers le zéro sans solution, il faut que zéro personne se retrouve sans solution. Donc il faut que les structures médico-sociales, elles se bougent un petit peu, qu'elles arrêtent de faire des admissions sur critères, qu'elles arrêtent de cloisonner, il faut qu'elles puissent répondre à tout le monde, et si elles n'ont pas la compétence, le service, elles vont le chercher ailleurs. Ça sera un très très joli défi, parce que ça remet en question notre façon de travailler. On avait nos établissements, nos salariés, nos personnes handicapées, quelque chose d'un peu possessif, des petits bastions, des petites luttes d'influence, des petites baronnies de ci, de là. Demain, on va devoir casser un petit peu tout ça et ne travailler que dans l'intérêt des personnes et pas pour nos guéguerres de pouvoir ou d'influence. Enfin, jolie révolution. Nous, on veut que tout le monde accède à tous les droits. L'éducation, la formation, le travail, le logement, etc. Ça, c'est notre ambition.
Je quitte les sauvages sous un soleil radieux. Je poursuis mon chemin et je me rends dès à présent à Tizy-les-Bourgs. J'arrive à temps pour rencontrer Michel Mercier, président de l'association La Nouvelle Aide. La Nouvelle Aide est une structure associative créée au début des années 50. Malgré les difficultés rencontrées, l'association perdure et permet aux personnes âgées de rester chez elles le plus longtemps possible. Michel Mercier revient dès le début de notre échange sur les prestations que propose l'association.
Les prestations que l'on propose ont beaucoup évolué ces 3 ou 4 dernières années. On essaye d'offrir une prise en charge globale pour la personne âgée qui prend ce qu'elle veut, comme un menu à la carte, en quelque sorte. Alors nous avons des prestations qui sont des prestations qui portent sur le logement, c'est faire en sorte qu'il soit accueillant, et puis qu'on puisse y vivre normalement, si on ne peut pas faire son ménage. Après, on développe de plus en plus les prestations autour de la personne. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire aider lorsque c'est nécessaire, au lever, à la toilette, au repas, au coucher. Par exemple, on a des personnes chez lesquelles on vient 60 heures par mois. Dans ces prestations offertes aux personnes âgées, on a tout ce qui concerne aussi l'accompagnement. On accompagne les personnes âgées, soit pour se promener, faire un petit tour, voir quelqu'un, aller chez le coiffeur, aller chez le médecin, pour faire leurs courses. On livre les repas.
Une structure qui intervient essentiellement sur Tizy-les-Bourgs, qui connaît une forte demande suite au vieillissement des habitants de la commune. L'association compte aux alentours de 200 clients au sein de la Nouvelle Aide et ne cesse d'augmenter. Lors de cette interview, la structure venait de signer une trentaine de nouveaux contrats. Combien de salariés ou bénévoles font tourner la structure?
On a à la fois des salariés et des bénévoles. Et les salariés, eh bien, sont ceux qui font les prestations que j'ai expliquées tout à l'heure. Pour faire les toilettes, eh bien, il faut savoir faire, il faut être professionnel. Donc on fait de la formation, on embauche du personnel qualifié. On a autour de 25 salariés. Après, on a des bénévoles qui s'occupent de l'animation. On a aussi une action d'animation. Tous les mardis, pour l'après-midi, il y a des jeux. Il y en a qui veulent jouer aux cartes, il y en a qui jouent à d'autres jeux, il y en a qui discutent, il y a un goûter, un café, on parle. Et puis, pendant l'année, on organise 3 ou 4 grands événements. On fait des choses intergénérationnelles avec les enfants de la maternelle. On prépare bien sûr Noël. Et là, ce sont que des bénévoles qui interviennent. On a une bonne douzaine de bénévoles qui travaillent toutes les semaines. Alors, on travaille aussi avec les API. Donc, on a des usagers qui sont de la API. On va chez eux, on s'occupe de leur logement sans problème.
L'association peut venir en aide. Non. Est-ce que vous pouvez faire un point sur les démarches? Comment est-ce qu'on fait si on veut que la Nouvelle Aide vienne nous aider, notamment?
Vous voyez, la porte est là, alors on rentre. Et puis, on vous dit bonjour quand vous rentrez. On rigole quand on dit ça. Mais c'est essentiel. Parce qu'il y a un endroit où les gens peuvent venir, ils sont accueillis, on les écoute, on les aide, on leur explique ce qu'on peut faire à leur demande, adapter toutes nos prestations à leur situation. On va chez elles, on regarde leur logement. Et avec elles, on fait un projet.
« C'est ainsi que se termine ce deuxième épisode. À travers ce voyage, nous avons mis en lumière le travail formidable de trois structures, l'association La Roche, la GIB et enfin la Nouvelle Aide. En allant à la rencontre de leur équipe, notre objectif était simple, vous montrer qu'il existe des solutions concrètes. Personne n'est seul face aux défis du quotidien. Que l'on parle de handicap ou de mobilité réduite, ces associations prouvent chaque jour qu'un accompagnement adapté, humain et de proximité est possible pour retrouver de l'autonomie et de la confiance en soi. Si vous souhaitez prendre contact avec l'une de ces trois structures, rendez-vous sur leur site respective pour l'association des gestions du Haut-Beaujolais, adapi69.fr, pour l'association La Roche, laroche.asso.fr, et enfin l'association La Nouvelle Aide, maboussoleaidant.fr. Un immense merci à ces associations pour leur accueil et pour leurs engagements. Quant à vous, chers auditeurs, merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a touché ou si vous pensez qu'il peut aider un proche, n'hésitez pas à le partager autour de vous. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. Prenez soin de vous et à bientôt.